Chers amis, auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le temps de l'Avent. L'Avent veut dire Adventus, avènement. Et donc, il nous faut bien quand même parler un petit peu de l'avènement de Jésus. Hein ? Il vient, voici que je viens bientôt, dit-il dans l'Apocalypse. Et puis, avec toute l'Église, poussée dans le souffle du Saint-Esprit, nous crions « Maranatha, viens Seigneur Jésus !» N'est-ce pas? Et nous entendons ces temps-ci beaucoup, beaucoup, beaucoup à la messe des évangiles, des passages d'évangiles où Jésus parle de sa venue glorieuse. Mais j'avoue que j'ai une question, frères et sœurs, est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que ça nous rejoint? J'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que le Covid rejoint plus les gens que Jésus qui dit « Je viens bientôt », non ? Quand Jésus parle de sa venue et de ce qui précède, épidémie, guerre, famine, tremblement de terre, etc., etc., les cieux, les puissances des cieux sont ébranlées, bref, c'est sûr, on va en parler justement. Avant la venue glorieuse du Christ, il faut bien que l'Antichrist et l'Antéchrist se manifeste juste pour être jeté dehors, dans le feu de la géhenne qui ne s'éteint pas. Autrement dit, la venue glorieuse du Christ avec ses saints, comme dit saint Paul aux Thessaloniciens, comme dit saint Jean dans l'Apocalypse, la manifestation glorieuse de Jésus qui est vivant, va produire des effets extraordinaires et un des premiers effets, c'est de juger. Non pas le jugement dernier, attention, on n'est pas encore dans le temps du jugement dernier, comme on dit, le jugement universel, mais se juger l'Antéchrist. Juger l'Antéchrist, c'est lui dire ça suffit, c'est l'ôter son pouvoir. Eh oui, alors c'est des bonnes nouvelles, vous comprenez. Et c'est la vraie manière de regarder l'histoire. La manière la plus profonde et la plus belle de regarder l'histoire, c'est l'intervention de Dieu. L'économie divine, comme on dit en théologie, c'est-à-dire que Dieu a l'œuvre dans notre histoire. Sinon, c'est un peu au ras des pâquerettes. L'histoire, c'est très intéressant. Mais si nous n'avons pas le regard de Dieu sur l'histoire, ça reste insatisfaisant. Alors, que se passe-t-il vraiment ? Je vais vous dire ce qui se passe. Le Christ siège à la droite du Père. La session à la droite du Père signifie l'inauguration du règne du Messie. Accomplissement de la vision du prophète Daniel concernant le Fils de l'homme, je cite, « À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. » Son empire est un empire à jamais, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Daniel 7. À partir de ce moment, les apôtres sont devenus les témoins. Écoutez bien, c'est le catéchisme qui nous dit ça au paragraphe 664. Les apôtres, à partir de ce moment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Jésus vit le mystère de son ascension, les apôtres deviennent témoins. Écoutez bien. Du règne qui n'aura pas de fin. Ah, voilà, ça situe le témoignage, si vous voulez. Tu es témoin de quoi, toi, chrétien ? Tu témoignes de qui, de quoi ? Ah ben, je témoigne que ça va pas du tout, que c'est la cata. Tu témoignes de quoi, toi, chrétien ? Est-ce que tu as reçu l'onction du Saint-Esprit ? Est-ce que tu as l'onction de Jésus-Christ, le Messie, le Oint, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Est-ce que tu as cette onction-là en toi? Alors, si tu as reçu l'onction de Jésus, tu peux témoigner. Attention, je répète, cette parole est très importante. Témoin du règne avec un grand R, qui n'aura pas de fin. Autrement dit, qui règne? Ben, je sais pas, il y a quand même un nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver. D'accord? Bon. Et alors? Qui règne? Si c'est Jésus de Nazareth, roi de l'univers, qui règne, si tu crois au règne de Dieu, si tu crois au Christ, roi de l'univers, c'est pas simplement quelqu'un avec une couronne et qui est tranquille sur son siège là-haut en train de siroter un Malibu. Non, non, non. C'est le règne de Dieu, c'est concret. Dieu veut régner. Dieu règne au ciel, bien sûr, dans ses saints. Dieu règne au purgatoire, car au purgatoire, il n'y a que l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers cette étape et cet état de purification temporaire, transitoire. Dieu règne en enfer, oui, parce qu'il est juste que les âmes des damnés soient damnées pour toujours, parce qu'ils l'ont choisi. Et la volonté de Dieu qui nous a créés libres a accueilli cette liberté de l'homme, sa volonté libre, jusqu'au bout. Lui, Dieu, il respecte notre liberté. C'est le seul qui respecte vraiment notre liberté. Profondément, Dieu nous a créés libres et il veut que nous fassions des choix libres, que nous le choisissions librement. Que nous le refusons, on peut refuser son amour librement, même si de fait cette liberté est diminuée par le fait même de recevoir, de refuser son amour. Alors, sur la terre, est-ce que Dieu règne en ce moment? Ben, je sais pas, parce qu'on dit dans notre Père que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et voilà le problème. C'est que le règne de Dieu est advenu jusqu'à nous et Dieu vient mendier notre oui, notre fiat. Dieu vient mendier notre choix, notre consentement libre. Il veut que la créature dise oui pour pouvoir régner avec nous ici-bas comme au ciel. Car le Seigneur Jésus est ressuscité, il est ascensionné, il est au ciel. Ah ouais, mais nous, on est sur la terre, alors on fait comment? Eh bien justement, par le don de la grâce, nous pouvons accéder à la vie du ciel, pour vivre la vie du ciel sur la terre. Une vie humaine, pleinement humaine, c'est une vie divine qui passe dans nos veines, dans nos yeux, dans nos mains, dans nos pieds, dans nos cœurs, dans tout ce que nous sommes, c'est la vie divine, la vie de la divine volonté qui passe en nous, à travers nous. Ah, mais attention, sur la terre, comme au ciel, on ne plane pas. Mais on vit selon le dessein de Dieu de toute éternité. Quand Dieu crée Adam et Ève, c'est pour venir jouer, c'est pour venir marcher, c'est pour venir vivre avec nous dans une alliance d'amour et de lumière. Alors voilà que par le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous avons la rédemption. Et que nous sommes dans ce temps, ce kairos, cette période très précise, nous sommes après la résurrection, la croix, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Nous sommes les enfants de la Pentecôte. Mais nous sommes les enfants de la rédemption. Nous sommes sauvés en Jésus. Première chose, évidemment, à faire dans notre vie, c'est accueillir le salut en Jésus. En dehors de Jésus, pas de salut, c'est clair. Vous prenez tous les fondateurs de toutes les religions du monde, ça ne donne pas le salut. C'est-à-dire que ça ne sauve pas du péché. Jésus seul nous sauve du péché. Ah bon? Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Ah oui, mais moi j'étais venu avec sur mon brancard, moi j'avais un problème. J'étais paralysé. Et puis, non. Tes péchés sont pardonnés. Mais c'est qui lui? Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, va en paix. Voilà. Tes péchés sont pardonnés, va. Et puis prends ton brancard, hein. Rentre chez toi. Mais tu pars, non pas sur le brancard porté par quatre hommes, tu pars à pied, avec tes deux pieds, avec ton brancard sous le bras. Témoin du règne de Jésus qui n'a pas de fin. Alors, c'est le temps où le Seigneur Jésus, avec le Père, envoie le Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'est le début d'une humanité nouvelle qui va vivre en régime nouveau. C'est quoi le régime nouveau? Mais ça fait les chrétiens. Avant, il n'y avait pas de chrétiens. C'est-à-dire des gens qui, accueillant le salut en Jésus, point 1, 2, se mettent ensuite à vivre, en tout cas apprennent à vivre dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Jésus. L'Esprit Saint qui fait de nous une créature nouvelle. Création nouvelle, tu es une création nouvelle. Vis selon ce que tu es. Ton vieil homme a été crucifié à la croix. D'accord? Ah mais il gigote, ah, il bouge encore un peu. Il est mort. Nous proclamons, c'est l'anamnèse, vous savez, proclamons le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Alors voilà le temps dans lequel nous sommes, le temps de la christianisation, de la christification. Il n'y avait pas de christianisme avant, et puis voilà que des hommes, des femmes, nouveaux, création nouvelle, créature nouvelle, accueillant cette vie divine, ont fait fructifier cette vie divine en eux, l'ont transmise de génération en génération, ça a transformé non seulement les personnes, mais les couples, les familles, les sociétés. Il y a eu la christianisation. Extraordinaire. C'est un bouleversement magistral que l'humanité a connu il y a 2000 ans avec la mort, la résurrection de Jésus, la rédemption. Et puis, surtout, des gens accueillant cet Esprit Saint et puis l'Esprit de Jésus. Il dit, voilà, on va vivre en homme nouveau. Ça y est, moi je crois au salut. Je crois en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis je marche, je vis, je construis, je fabrique des trucs, je travaille, mais avec ce cœur brûlant. Ce temps de l'Église, ce temps des sacrements, qui sont des nourritures et des aides magnifiques que le Seigneur nous donne, que le Seigneur a instituées, l'Église, les sacrements, son Église, ses sacrements, qui sont autant de vecteurs, communicateurs, transmetteurs de sa grâce. Avec bien sûr le Nouveau Testament qui est arrivé, il n'était pas là, et il est arrivé, extraordinaire, magnifique, l'Évangile, avec la place tout à fait particulière, la liturgie nouvelle qui vient abolir les formes culturelles d'avant, mais qui vient accomplir profondément la liturgie. C'est-à-dire le culte rendu à Dieu, c'est-à-dire le sacerdoce, la manière de vivre en relation avec Dieu à travers une vie liturgique. Pas simplement le temps de la liturgie, du moment de la liturgie, mais une vie liturgique. Une vie chrétienne dans toute sa richesse. Et c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'il faut du temps pour déployer tout ça, développer tout ça. Il faut le temps non seulement dans une vie humaine, mais il faut le temps dans une société pour faire germer ce que Dieu a semé. Alors, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Alors, le Christ règne déjà par l'Église, je vous l'ai dit, c'est ce que nous dit notre foi, le catéchisme de l'Église catholique. Je vous invite à relire paragraphe 668. Si vous êtes attentif aux chiffres, le paragraphe 666, ça dit quoi ? Jésus-Christ, tête de l'Église, nous précède dans le royaume glorieux du Père pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Voilà. Pendant ce temps de fructification, il y aura l'espérance, l'attente de la venue de Jésus dans la gloire. D'où vient cette espérance et cette attente ? Eh bien, elle vient des promesses de Jésus lui-même. Je reprendrai le moment de relire, parcourir un petit peu avec vous les évangiles clés de l'attente de sa venue, de l'annonce de sa venue. Cet avènement eschatologique, c'est-à-dire eschatologique, le discours sur la fin des temps, les temps de la fin, bon, qui peut s'accomplir à tout moment, même s'il est retenu, lui est l'épreuve finale qui le précédera. Basé sur les paroles de Jésus, l'enseignement de la Sainte Écriture, l'Église proclame et annonce dans son magistère que la venue glorieuse de Jésus sera précédée par une épreuve finale. Je vous lis. Paragraphe 674 et suivant. La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l'histoire à sa reconnaissance par tout Israël. Ah, c'est intéressant ça. Dont une partie s'est endurcie dans l'incrédulité envers Jésus. Saint Pierre le dit aux Juifs de Jérusalem après la Pentecôte. C'est un des signes, frères et sœurs, précurseurs, de la venue de Jésus dans la gloire, reconnaissance de la part d'Israël que Jésus est le Machia. Qui peut faire ça ? Ben c'est Dieu seul qui travaille les cœurs. Bien sûr, on peut travailler au dialogue, on peut se rencontrer les uns les autres, etc. Mais c'est l'œuvre de Dieu qui illumine les cœurs. C'est une illumination des cœurs. Je rajouterai aussi, personnellement, et là c'est personnel, qu'il est peut-être assez convenant de penser que les chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, qui sont déjà unis, eh ben, le soient comme davantage lors de la venue de Jésus dans la gloire. Nous avons la même espérance eschatologique. C'est quelque chose qui nous unit profondément, cette attente brûlante de la venue du Seigneur. C'est le sens de la prière, c'est le sens de tout ce qu'on appelle l'œcuménisme. Nous sommes déjà unis, malheureusement il y a des points de désaccord, mais regardons ce qui nous unit et édifions-nous les uns les autres. Et nous avons à recevoir les uns des autres. Nous avons à nous communiquer le feu. Vous voyez, un orthodoxe qui n'attend pas la venue de Jésus dans la gloire, c'est dommage. Il plombe tout le monde. Un protestant pareil, un catholique pareil, vous voyez. Mais un protestant, un catholique, un orthodoxe qui attend avec amour son Seigneur, ben ça tire tous les chrétiens vers le haut. Il y a donc, encore une fois, là c'est personnel, c'est moi qui extrapole, mais il serait, à mon avis, convenant que la venue de Jésus dans la gloire et l'unité des chrétiens et les choses qui se passent, hein, des choses magnifiques. Bon, Je passe. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leur problème. Et voilà. Au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme, où l'homme se glorifie lui-même, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Très intéressant, quelle lucidité! On est content d'entendre ça, c'est l'enseignement de l'Église qui dit, oui, avant la venue de Jésus dans la gloire, ce sera pas, le christianisme ne sera pas florissant. Ah bon, non, on sera plutôt dans un piteux état. Après, est-ce que c'est le moment? Est-ce que nous considérons que l'Église est dans un piteux état en ce moment, dans l'agonie? Certains disent qu'on est à l'agonie, certains disent qu'on est le vendredi saint, d'autres le samedi saint, mais personne ne parle, ne dit que l'Église est ressuscitée. Non, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un peu particulier, comme époque, comme kairos, comme étape que nous traversons malheureusement. C'est très douloureux, je le dis avec humour, mais c'est douloureux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les hommes, les êtres humains attendent, ils ont des problèmes, on a des problèmes. Mais on va attendre tellement les solutions à nos problèmes que nous serons prêts, à travers une forme d'une imposture religieuse, on va attraper une solution apparente à nos problèmes qui nous sera apportée sous forme d'une imposture religieuse, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la croyance, au prix de l'apostasie de la vérité. Ah ! C'est-à-dire qu'on serait capable de renier notre foi, la foi de l'Église, le magistère, l'enseignement de l'Église, pour accueillir d'autres vérités, pour résoudre nos problèmes. Mais c'est quoi notre problème? Si nous avons Jésus Sauveur, si nous avons les sacrements, si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons la Vierge Marie, si nous avons l'Église, c'est quoi notre problème? Hein? L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme, où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Le problème, c'est la confusion, c'est le fait d'être distrait, c'est la distraction, vous voyez. C'est la séduction au sens profond de ce que c'est qu'une séduction. C'est quoi la séduction? C'est être désaxé du rail sur lequel nous sommes. C'est un homme, si vous voulez, marié, on va dire ça comme ça. Il voit une jolie fille passer et là, il est désaxé, le gars, il est désaxé. Et sa femme à côté, il dit « Hey, oh, je suis là, moi. Hein? » Ah oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui est venu le toucher, le séduire, et il a été désaxé. Vous voyez? C'est ça la séduction. Bon. Évidemment, on comprend bien que le démon, c'est le grand séducteur. C'est le grand séducteur qui veut nous désaxer des rails sur lesquels nous sommes, si nous y sommes. Si on n'est pas sur les rails, bon, c'est facile. Si on est sur les rails, alors il y a un combat spirituel. Si nous sommes déjà fermes dans notre foi, notre espérance, notre charité, sûrs de l'enseignement de l'Église, comme étant conforme à la vérité que Dieu a révélée, le vrai magistère, on n'a rien à craindre. Si on a Jésus dans sa vie, pour de vrai. Si on a Marie dans sa vie, pour de vrai. On n'a rien à craindre. Parce que Jésus est vainqueur. Et Marie fait fuir le démon, mais il bat tous les records des 100 mètres, là. Dans le sens inverse. Si on a Marie dans son cœur et dans sa vie, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, moi, avoir peur du démon, vous rigolez ou quoi? Je dis Jésus et je fais trembler l'enfer. Alors, mais il essaye de séduire, c'est-à-dire de désaxer. Et du coup, si on est désaxé, ben on va regarder, oh, comme c'est joli, oh, c'est intéressant, ah, telle idéologie, ah, tiens, le salut par un autre biais que celui de Jésus. Oh, un peu de Jésus, c'est bien, mais d'autres choses aussi, c'est bien. Hein? On tombe dans l'impureté, c'est-à-dire le mélange. On dit oui, Jésus est sauveur, mais il y a d'autres voies de salut, il y a d'autres voies d'accès au salut. Non, ben non, ben non, ben non, ben non. Oh, et puis le plus important, c'est la santé. Hein? Ah bon? C'est ça le plus important? Ben, c'est notre problème. Moi, je cherche des solutions à mes problèmes. Ben, encore une fois, Jésus n'est pas venu te guérir de tes problèmes de maladie, même s'il peut le faire, évidemment, il le fait. Mais il est venu te guérir d'une maladie, mais beaucoup plus profonde, de sorte que tu ne te rends pas compte, mais ton problème, ce n'est pas ta santé. Ton problème, c'est la vie éternelle, la question de ta vie. C'est pas d'être en bonne ou en mauvaise santé. Ah, bonne année, bonne santé, mon père, hein ? Ah, mes vœux les plus sincères. Ah, vous allez passer une bonne année si vous êtes en bonne santé. Eh ben non. Désolé de vous décevoir. Nous allons passer une bonne année si nous sommes en bonne sainteté. C'est sûr d'être en bonne santé, ça aide, c'est sûr. C'est un bien, la santé. Mais le glissement, sûrement, à mon avis, que nous sommes en train d'opérer, on est en train de passer du salut à la santé, vous voyez, du salut en Jésus, qui passe à travers les moyens ordinaires que l'Église connaît, à travers le baptême et les autres sacrements, à la santé. C'est-à-dire, ben, si je ne suis pas en bonne santé, ben, je vais être malheureux. Et donc, l'énergie passée à être en bonne santé, est-ce que c'est pas une distraction, ça? Question. L'énergie, le temps que je peux passer à être paisible avec mon Dieu, mon Sauveur, assis à la droite du Père, à vivre de ce règne qui n'aura pas de fin, et je passe mon temps à d'autres choses. Bien sûr qu'il faut se soigner quand on est malade, hein, vous avez bien compris. Mon propos est de dire l'ultime épreuve de l'Église où on sera secoué par l'Antichrist. C'est quoi l'Antichrist? Saint Jean en parle dans ses lettres. L'Antichrist, l'anti-ouin, l'anti-messie. Je vous ai dit au début, est-ce que vous avez reçu l'onction du Christ ou pas? Oui. Ok. Créature nouvelle? Oui. L'esprit de l'Antichrist nie la venue de Dieu dans la chair. Parce que le démon déteste la chair. Le démon déteste l'humilité de Dieu qui vient nous sauver en prenant notre nature humaine et non pas angélique. De sorte que non seulement le démon déteste Dieu, mais il ne peut rien contre Dieu, alors il déteste l'être humain. Par jalousie, orgueil, il veut nous détruire. C'est quoi nous détruire? C'est nous emmener en enfer. Il veut que nous soyons damnés, tout simplement. Lucifer et ses copains, le tiers des anges, ils sont jetés sur la terre. Pourquoi? Ben pour nous mener la vie dure. Pour nous faire vivre sans Dieu. De sorte que ça passe aussi, l'esprit de l'Antichrist passe à travers les idéologies. L'athéisme, le matérialisme, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est l'homme qui se glorifie à la place de Dieu, qui va être à lui-même son propre sauveur. La franc-maçonnerie, c'est l'esprit de l'Antichrist. Point. Le communisme athée, tout ça, ce sont des idéologies qui pullulent, qui finalement viennent séduire l'homme. L'homme qui se dit, je suis quand même au sommet de la création, qui d'ailleurs n'est pas une création, c'est juste le fruit d'un Big Bang, voilà. Je suis quand même le roi des rois, mais sans le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et donc je vais dominer. Cet esprit de puissance, de domination, qui est une caricature de notre vocation à la royauté. On retrouve ces tentations lorsque Jésus est agressé par le démon, tenté par le démon sur le mont des tentations. La tentation de la gloire humaine, mais jette-toi en bois, et puis je te donnerai tous les royaumes de la terre. Si, juste un petit détail, si tu te prosternes devant moi, quoi. Voilà, si tu me donnes du pouvoir dans ta vie, je vais te donner l'argent, la gloire, la domination, tu vas voir. Tu seras le roi, ce sera top. Tu auras un impact sur les gens, ça va être formidable, tu vas dire des trucs, ça va se passer. Magnifique, ça s'appelle juste la séduction, la tentation. De sorte que nous sommes dans un temps de grande confusion, où les esprits de l'Antichrist pullulent. Les tentations sont nombreuses, les suggestions, voilà. L'homme tombe comme une mouche. Pourquoi? Parce que il n'est pas suffisamment fort dans le Christ. C'est le Christ seul qui vainc le démon. Je mettrai une ligne d'amitié entre toi et elle, et entre ta descendance et la sienne. La descendance de la femme, c'est le Christ. Il t'écrasera la tête. Ouais. Toujours la tête, le poisson pourri par la tête, comme on dit. Bon. Alors, voilà que, avant la venue de Jésus dans la gloire, l'Église nous enseigne que il y aura l'esprit de l'Antichrist qui va pousser. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. L'Église entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Alors, il y a ce qu'on appelle, je terminerai par là, le huitième jour, vous savez, à la suite de l'Évangile, les pères de l'Église, le catéchisme, même si le catéchisme reste assez succinct, il y a le huitième jour, c'est-à-dire le passage dans l'éternité, la transformation du cosmos, je pouvais aller voir entre le paragraphe 1038 et 1050, c'est l'ultime, j'allais dire, moment où tout est transformé parce que Jésus remet le règne au Père. C'est ce que nous dit saint Paul dans Corinthiens. Au dernier moment, si vous voulez, il y aura cette résurrection de la chair des damnés et des bons, des justes, transformation du cosmos, juste, ce sera juste précédé par ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est-à-dire universel, c'est-à-dire toute l'histoire humaine. Voilà. C'est l'ultime jugement. Voilà. Mais avant ce huitième jour, il y a le septième jour. Le septième jour, si on prend l'histoire de l'humanité et de l'univers résumée symboliquement en une semaine, la création créée en 6 jours, évidemment, c'est pas 6 jours, mais ça veut dire symboliquement qu'il y a des étapes avec ce Shabbat, le septième jour. Dieu chôme, Dieu se repose dans sa création, de sa création. Alors, le huitième jour, c'est l'entrée dans l'éternité. Le septième jour, c'est la venue de Jésus dans la gloire, qui vient inaugurer ce que l'Apocalypse appelle le millénium. Ce n'est pas 1000 ans forcément, jour après jour, et c'est le millénium, c'est ce temps béni que connaîtra la terre, du règne du Christ qui, je vous le rappelle, n'a pas de fin. Ce n'est pas le démon qui règne. Le démon a un pouvoir limité, un temps limité. Il n'a que la longueur de sa chaîne. La venue de Jésus dans la gloire viendra juger l'Antichrist, qui est aussi l'Antéchrist. Anté, ça veut dire avant. Il sera comme manifesté à travers une personne, aussi l'homme impie, comme dit saint Paul, et qui sera jugé. Défait. On va lui enlever son pouvoir et du coup on va accéder et on va découvrir pour vivre sur la terre ce temps du règne, ce temps de ce que l'Écriture appelle de la restauration, de la régénération, de la parousie. Le temps de la parousie, c'est un temps vécu sur terre avec dans le cœur le Christ régnant en nous, à travers nous. Alors, c'est la prochaine étape que nous attendons. C'est la venue de Jésus dans la gloire. Non pas dans la chair comme il y a 2000 ans, ça a été condamné par l'Église, c'est une hérésie. Jésus, je vous l'ai dit, siège à la droite du Père, d'où il règne. Et il nous donne de participer à quoi? À son règne. Alors bien sûr, si vous êtes fan de la divine volonté, vous avez fait le lien, bien sûr. Oh. Le règne de la divine volonté, la venue de Jésus dans la gloire, il y a un lien, c'est sûr. Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons que tu viennes. Amen. Bonne écoute de Radio Maria. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.